Qu'est-ce que tu...
Mais lâche.
Non, tu la... Donne, tu lâches. Donne, viens là, tu donnes, viens.
Oh,
viens
là.
Quoi? Un, je suis pas sûr. Deux, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, ni la bonne façon pour parler au chien, tu vois.
Il m'a pris mon poulet. Non, il t'a pas pris ton poulet. Il s'est servi en poulet.
CO2, mon amour.
Excuse-moi, je pense pas que ce soit à toi ou à nous de les éduquer, mais plutôt à eux. Voilà, il y a quelqu'un qui sont chez eux ici, c'est pas nous, c'est bien eux. Ou nous. Alors,
avec Denis Chessou.
Ils sont arrivés sur Terre avant nous, jusqu'à preuve du contraire. Ils étaient là dès le début ou pas? Dès le début, hein?
C'est juste.
Donc, à la limite, toi, demande-lui l'autorisation si tu peux manger avec lui, si tu veux. Alors, je suis pas sûr qu'il me réponde.
Sur France Inter.
Avec ou sans chien, avec ou sans poulet, en tout cas, bienvenue dans cette émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite. CO2, mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Rémi Sistiaga aujourd'hui à la technique, Camille Blanès bien sûr nous accompagne et Xavier Pessugia réalise l'émission. Un 38e week-end du patrimoine, beau, apaisant, réunificateur, grâce à ces créations que nous sommes priés de transmettre en bon état aux générations qui nous suivent. Le pont du Gard, Sainte-Madeleine à Vézelay, un lavoir anonyme, une chapelle romane sur le Cosmé-Jean, le château classé du grand-oncle en faillite, les déchets radioactifs bientôt enfouis à Bure, à vie bien plus longue que les premiers monuments construits par l'homme. Bon d'accord, ça c'était peut-être pas le bon exemple. Patrimoine pour tous, un thème incontestable qui doit permettre aux personnes handicapées d'y avoir accès. Patrimoine pour tous, allez, on élargit la focale, car notre siècle cabossé entre climat facétieux, événements extrêmes, démographie et l'horizon obsessionnel d'une croissance économique d'un autre âge, est-ce que cela va nous proposer un avenir réel pour tous? Et si la ministre souligne que nous avons su préserver et mettre en valeur au fil du temps les monuments et les jardins que les générations précédentes nous ont légués, on peut être tenté d'extrapoler. Et ouais, que restera-t-il pour nos jeunes de maintenant et ceux à naître, si toutefois ils ont envie de se reproduire? Que restera-t-il des ressources naturelles de notre jardin planétaire, réduites en cendres ou en bouillie commerciale un peu plus chaque jour? Notre patrimoine mondial à tous, bah c'est simple, d'abord c'est la Terre. Et ouais, on lui a collé des droits de propriété et d'extraction un petit peu partout sur son ventre fécond mais limité. Mais la Terre, est-ce qu'elle considère, sous et sur sa jolie peau, remplie d'océans, de montagnes, de forêts, de fleurs, de bêtes, que nous, les humains, nous faisons partie de son patrimoine? Ah, allez savoir. Un peu quand même, hein, parce qu'il y a un vrai réservoir de générosité et de passage à l'action qui existe. De là à parler de réconciliation entre nos appétits et les patrimoines historiques et naturels, oh là là! Tenez, par exemple, là, récemment, la vente par l'État à un promoteur immobilier, vert, hein, bien sûr, dans les Yvelines du château de Grignon et ses 310 hectares de bois, de champs, qui accueillaient AgroParisTech. Alors, le ministre de l'Agriculture productiviste a dû trouver sympathique le projet alternatif des 31 villages et de l'association Grignon 2000. À Grignon, donc, grignotons une soixantaine d'hectares en s'asseyant sur la lutte contre l'artificialisation des sols inscrite dans la récente loi Climat, ça attendra. Ainsi va l'écologie patrimoniale en France. Alors, bonne fête à toutes les vieilles pierres et les jeunes pierres, en particulier à notre petit caillou hein, qui gravite dans l'univers depuis la bagatelle de 4 milliards et demi d'années. 4 milliards et demi d'années, si c'est pas du patrimoine ça ? Un joli patrimoine de 2000 ans, les ortillonnages d'Amiens, une barque du silence, des oiseaux, de l'art, des radis, des poireaux. Je vous dis tout, ce sera dans votre assiette d'ici 3 minutes.
Bending down, down.
C'était Curtis Harding sur France Inter, extrait de la playlist par Thierry Dupin. Un petit gars du Michigan, histoire d'ailleurs d'adoucir les relations un peu tendues avec les États-Unis. Ah, là, il n'y aura pas de sous-marin, mais on va partir avec une barque.
Derrière nous, une friche transformée en jardin artistique. Devant nous, des terres maraîchères avec des poules. Et après, en arrière-plan, l'étang de Clermont, l'histoire des ortillonnages avec la tour. Et on devine, caché derrière les arbres, on voit d'ailleurs des promeneurs, le chemin du halage. Donc la Somme est juste derrière. Et peut-être, même si on se décale, je ne sais pas si c'est le cas ici, on peut peut-être apercevoir même le clocher de la cathédrale. Ce sont des espaces qui n'existeraient pas comme ça sans la main de l'homme. Donc ce sont vraiment des espaces semi-naturels et sans le travail acharné de tous les maraîchers pendant des décennies, on n'aurait pas ce paysage actuel. Et c'est vraiment un paysage qui a évolué en fonction des usages. Donc du maraîchage, une ancienne tourbière aussi, l'étang de Clermont où on est. Et puis après, c'est aussi multi-usage, des chasseurs, des pêcheurs, des kayakistes. Tout à l'heure, en arrivant, je voyais un canoë qui s'installait. C'est aussi beaucoup de jardins d'agrément maintenant. On est tout près de la ville, on est à un quart d'heure, 20 minutes du centre-ville d'Amiens, une heure et quart de Paris, et c'est un vrai bol d'air.
C'est le mariage de la terre, de l'eau douce et des légumes. Et aujourd'hui, la culture au service, eh ouais, de la culture. Nous sommes en terre picarde, dans les ortillonnages, donc un milieu humide tout à fait singulier. À l'origine, donc, il s'agit d'un ensemble de marais et d'îlots de la Somme, hein, en amont d'Amiens. Et l'histoire est ancienne, hein. On dit que la gothique cathédrale d'Amiens fut construite au XIIIe siècle sur un champ d'artichauts qui leur aurait été cédé par les maraîchers des ortillonnages. Alors, faut imaginer, hein, début XVIe siècle, il y avait 10 000 hectares d'ortillonnage, avec quand même beaucoup qui étaient cultivés. Et ces îlots de terre, ces hortus, ces jardins étaient donc reliés par une suite de canaux, de rieux, c'est toujours le cas. On circulait d'une île, d'un lopin de terre à l'autre, en barque. Et aujourd'hui, il y a quand même moins de 25 hectares sont cultivés. Oui, c'est pas beaucoup. Par 7 maraîchers. Alors, ces lieux sont également mis en valeur grâce à l'association Art et Jardin et le Festival des Ortillonnages. Alors, si vous voulez, c'est la culture version que la terre est basse mais généreuse et la culture version artistique qui avance main dans la main, barque dans la barque, grâce à Gilbert Filinger qui est le directeur de l'association Art et Jardin, Nathalie Vallée, vous avez entendu, qui est la directrice du Festival des Ortillonnages, et Francis Parmentier, le dernier maraîcher en barque né dans un chou, sans oublier les jeunes en insertion et tous les bénévoles. On peut y aller là ? Allez, ça s'appelle véritablement embarquer, hein, ça, Francis, parce qu'on est sur une barque. Hein.
Là, oui, là, on est sur une barque en bois, nouvelle barque cette année, électrique.
Et ça, ce sont les, on va dire, les bébés des barques à cornets qui existaient autrefois ou...
Barque à cornets, pas trop, mais enfin, ça revient au système d'avant où c'était les barques d'origine bois.
Alors, on les appelait barques à cornet, pourquoi ?
Alors, les barques à cornet, c'était les barques qui transportaient les légumes que les ortillons servaient pour arriver au marché sur l'eau. Avec le grand cornet, pour faciliter le déchargement des légumes, le grand cornet, on mettait le grand cornet à quai, ouais. Et puis l'ortillon arrivait à hauteur de taille avec ses légumes sur le marché.
C'est-à-dire que ça faisait une espèce de marche, quoi, pour
voilà, arriver tout sur à fait. Ça faisait une marche, marché. Ça faisait un cornet, il est rélevé à peu près d'1,20 m. Alors, à savoir que le marché sur l'eau, là-bas, par rapport au niveau de la Somme, le niveau de l'eau, il se trouve à 1,60 m, donc ça fait à peu près 40 cm de décalage entre le cornet et le quai.
Vous êtes moitié marin et moitié maraîcher, quoi.
Alors, moi, moitié marin, moitié maraîcher, effectivement, parce que moi, sans outils comme ça, je ne peux pas accéder sur mes parcelles. C'est tous des petits îlots. Hein. Si je ne possédais pas de bateau,
il n'y aurait pas de métier. Alors, faut imaginer ces lieux. Là, nous sommes allés quoi ? Au XIIe siècle. Bon, les ortillonnages. Est-ce que ça existe déjà ou pas ? Que font peut-être nos moines ? Nous sommes quoi ? Sur un immense champ de tourbe ?
Alors, c'était certainement différent, puisque il y a eu un assèchement du marais, mais qui avait commencé bien longtemps avant. Et au début, alors il y avait des moines, mais il n'y avait pas que des moines. Non, il y avait d'autres gens. Voilà, c'était un vrai site de production. Et les îles, il faut aussi les imaginer beaucoup plus grandes. Il y a beaucoup d'îles qui étaient beaucoup plus grandes puisque l'eau a repris un peu sa place avec le temps, avec l'abandon aussi. Vous avez des îles qui étaient à 7000 mètres carrés. Aujourd'hui, je vous en montrerai une. Elle est à 150 mètres carrés. Hein. Donc, même au niveau du plan cadastral, elle existe encore en très grand. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que tout est devenu quasiment eau et il reste un peu de terre.
Alors, le point de départ, c'était quoi ? C'était de la tourbe et on a creusé des cadeaux. C'était quoi ça ?
Alors la tourbe, c'est essentiellement dans l'étang de Clermont, ouais, qui a été creusée et qui petit à petit d'ailleurs est en train de se réenvaser. Je ne sais plus de quand date la dernière période de curage, mais c'est extrêmement peu profond. S'il n'y a pas ce travail très régulièrement de ramasser la vase, il y a l'envasement, il y a l'érosion de terre et ça se referme. C'est vraiment un espace qui existe que grâce à la main de l'homme. Voilà, on est vraiment dans un interstice où nature et action humaine sont interdépendantes. Ce qui est complexe dans ce site des ortillonnages, c'est qu'il y a à la fois du domaine public et du domaine privé. Mais du domaine privé, il y a énormément de parcelles privées. On n'est quasiment que sur des parcelles privées ici, mais qui doivent aussi laisser l'accès aux bateaux, à la circulation des bateaux pour tout le monde. C'est ce puzzle-là qui est aussi
c'est un peu comme
compliqué.
Un sentier des douaniers où il y a une autorisation de passer. Quoi.
C'est ça. Et donc la question de l'entretien des rieux, de l'entretien des fossés est souvent au cœur des discussions avec la métropole parce que ça coûte aussi de l'argent pour les propriétaires.
Qui va prendre à sa charge.
Voilà.
Et donc les rieux, ce sont des canaux.
Oui.
Alors là, on est Gilbert, donc sur un endroit, j'ai presque dire, qui est mouvant, quoi, qui peut changer très très vite.
Oui, et d'ailleurs, on l'a refait cette année, puisque en 10 ans, l'eau elle a commencé à reprendre, en fait, et à détruire au fur et à mesure les choses. Donc ça demande un réel entretien, ça demande la présence de l'homme, et l'homme disparaissant, c'est là qu'on s'est rencontrés. Hein. Il y a un danger, automatiquement. L'érosion des berges, retour des îles à l'eau, et disparition du site, danger sur le site.
Allez Francis, faites-nous un peu le tour du propriétaire en quelque sorte.
On rentre dans la
saulée. Le saule se porte bien.
Ici, dans les ortillonnages.
Il se régale même.
Ça pousse là depuis 4-5 ans.
Comme du chien d'an.
Ah ouais, ça pousse comme du chien d'an. Avant, on estimait un herbe dans les ortillonnages d'1,80 m. Actuellement, je pense qu'un herbe, il pousse deux fois plus. C'est-à-dire, il prend vite une grandeur de 4, voire 5 mètres chaque année.
Ce qui est important de savoir, quand même, ces îles, il y a eu les inondations de 2001. Et ces îles, elles étaient potagères avant. Et elles n'avaient pas d'arbres. Hein. Et donc, ce qui s'est passé en 2001, beaucoup de gens ont abandonné leurs terres. Donc, il y a quelques maraîchers qui sont restés. Il y en a peu, hein, finalement. Il en reste... C'est quasiment le dernier dans la sphère et qui utilise le bateau.
Le bateau.
Et donc, c'est devenu un peu une friche. Et Et moi, j'ai rencontré Francis donc en 10 ou en 9, je ne sais plus, 9, ouais.
Tout de suite, vous êtes mis d'accord parce qu'il a tout de suite compris que ces lieux-là ne seraient plus des friches avec ce festival. Mmh. C'est ça, hein, l'idée.
Oui, effectivement.
Donc, cette notion de sauvegarder un patrimoine, ça, tout de suite, ça vous a plu.
On s'est donné rendez-vous et, devant le Magal Orange, il m'a expliqué le projet.
Vous avez tapé dans la main très vite.
10 minutes après, on était parti.
C'est une aventure au fil de l'eau. Les ortillonnages d'Amiens, transformés en un musée à ciel ouvert, que l'on sillonne en bateau électrique.
Donne-moi ta mimine.
À peine débarqué, Maëlle, sa maman et sa grand-mère découvrent un jardin extraordinaire.
Ah, il y a de l'idée, hein.
Des œuvres d'art, souvent ludiques, pour une balade sans sourire.
C'est calme, on est en pleine nature, c'est reposant.
Il y a des œuvres originales, c'est vraiment une balade à faire pour tout le monde.
Plus de 50 artistes venus du monde entier ont puisé dans les ortillonnages leur inspiration.
Ce qui est formidable, c'est que vous avez donc voulu marier Nathalie Vallée et donc Gilbert, en fait, art, culture, jardinage.
Art, culture, jardinage, insertion sociale, restauration du patrimoine naturel, protection de l'environnement.
Ce sont des artistes qui viennent poser leur œuvre, qui viennent les faire ici.
Les artistes viennent et généralement, c'est eux qui font leur propre jardin ou leurs propres œuvres. Donc c'est assez classique, hein, on fait un appel à candidature. Cette année, on a eu à peu près 130 candidats. Et puis, il y a un jury qui se réunit, qui choisit.
Mais ils ont un bout de jardin chacun ?
Qu'est-ce que c'est ? Alors, ils viennent après avoir été choisis et on leur fait des propositions de terrain. C'est une sorte de tiercé et ils disent, je préfère celle-là, celle-là, celle-là. Et en fonction de ce qui est vraiment disponible, on leur met à disposition la parcelle. Ensuite, ils viennent, travaillent ici. Ils travaillent aussi donc, avec le chantier. Puis ils construisent leur jardin, mais souvent ils le font eux-mêmes, ils amènent même des copains, des amis. Et l'idée, ce sont des jeunes, hein. Souvent c'est un peu une sorte de mise à l'étrier. Vous savez, on avait le choix, c'est où on se dit on prend un peu des têtes d'affiche, ou alors on prend des gens qui n'ont pas vraiment réalisé énormément de choses, mais qui sont sortis de l'école, qui ont le diplôme. Et ce qui est surtout bien, c'est qu'il y a vraiment cette présence des paysagistes et des artistes ici, en résidence, ils restent. Alors c'est vrai que là, c'était un peu difficile à cause du Covid, mais en même temps, l'an dernier, on a fait ce qu'il y avait à faire. Le festival a existé, et cette année, c'est plutôt le gel qui nous a mis en retard. Donc nous, on a un chantier d'insertion.
Oui.
Donc depuis la deuxième année, qui entretient, qui accompagne aussi les artistes, qui travaille avec les artistes, et qui donc est à demeure toute l'année. Puisqu'on a quand même une cinquantaine d'œuvres, dont un certain nombre de potagers. Donc il faut les entretenir et on a 17 personnes.
Gilbert, donc là en fait, il y a à peu près peut-être une cinquantaine d'œuvres qui repose sur 25 à une trentaine de petits îlots, donc d'ortillonnage.
Exactement. Il y en a une partie qui sont donc visitables qu'en bateau, qui est quand même la plus belle partie, 2h30 de pur bonheur. Et il y a une partie qui est très proche du centre-ville, tout près de la cathédrale, qui est visitable à pied.
Nathalie Vallée, si on fait un petit peu d'histoire comme ça, assez rapidement, qu'est-ce que l'on peut dire ici ?
Alors ici, on est vraiment sur une parcelle, sur une œuvre vraiment très emblématique du festival. Effectivement, l'une des premières éditions, 2010. Florent Morisseau, jeune paysagiste. Et donc, ce jardin-là, ça s'appelle le potager embarqué. La parcelle, quand on l'a récupérée, c'était une friche avec tous ces arbres qui ont poussé donc, depuis 2001, totalement abandonnés. Et il a souhaité faire un hommage aux ortillons. Donc l'entrée du jardin, c'est encore cette friche. Et puis petit à petit, les jardins se dessinent, tressés, et puis après des bacs en bois comme ça. Et puis on finit avec des plantations qui sont dans des bateaux, dans des barques, qui sont un hommage pour les ortillons qui partaient en barque écornée alimenter le centre-ville d'Amiens. Et donc voilà.
On a un raccourci en fait artistique.
On a l'histoire des ortillonnages qui est dessinée au fil de cette promenade tout au long de ce jardin-là. Et on finit par une esplanade qui, quand on va dessus, on découvre tout le paysage, tous les temps de Clermont.
Et on va poursuivre cette balade sur cette bonne terre capable de vous donner 3 récoltes par an avec nos différents intervenants. Pour cela, il nous faut un grand ciel.
Thank you.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand pour être vite noir de monde, à chacun son bouquin. On joue diable à la ronde, ou bien rien, ou bien rien. Du bleu des satellites, des nuits météorites. Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand pour que chacun dans son coin plonge au fond du zodiaque. Il trouve un strapontin, un fauteuil, un hamac pour regarder passer, passer les gens passer. Entre sol et soleil, y a le ciel, y a le ciel, et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes. Entre sol et soleil, y a le ciel, y a le ciel, et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand pour cueillir en son sein le bonheur, la misère. Des avions, des dessins, Apollo, des prières, les paroles d'hirondelles et celles des aigles, celles. Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand pour décider tout seul s'il sera rouge ou gris. Tant pis pour ceux qui veulent en faire mauvais la vie. Moi je crois qu'il est changeant. Combien des sentiments entre sol et soleil. Y a le ciel, y a le ciel, et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes. Entre sol et soleil, y a le ciel, y a le ciel, et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand pour noyer des rivières de prières, grand Seigneur. Dans la couleur de l'air, y a les premières roses. Des big bang de l'amour, lui marche sur du velours. Croyez-moi, il est grand dans le ciel assez grand.
Très agréable ça, Art Mingo, Grand Ciel sur France Inter dans CO2 Mon Amour, avec donc ces ortillonnages qui participent à l'image d'Amiens, donc ces jardins ancêtres des circuits courts qui remplissaient les ventes de choux, de carottes, de radis, de pommes de terre, que sais-je. Et donc c'est aussi le pari fou d'installer la création contemporaine dans un site patrimonial et naturel protégé et qui questionne les vivants. Hein. Comment est-ce qu'on va se nourrir demain? Quelle eau on va boire? Quelle migration humaine, alors que dans le ciel bah, et sur les étangs continueront celles des oiseaux. Donc c'est tout cela qui est derrière, avec une réussite hein, qui nourrit le corps et l'esprit. Donc on embarque dans le calme des roseaux, dans le langage des oiseaux, dans cette terre fertile, sous le regard généreux de la Somme limoneuse. Là on arrive, pendant que Francis fait la manœuvre avec sa barque plate. Hop, on va arriver sur cette terre, donc toujours superbement noire, parce qu'on l'a bien compris, fertile et tourbeuse. Hop, là, voilà. Ah, où est-ce qu'on l'accroche?
Ah non, il l'attire, lui.
Ah ouais.
Oui, carrément, il la monte. Pas complètement, mais
un peu quand même. Non, mais...
Ah, faites-nous le tour du potager.
Oh, bah ça, c'est un test de pommes de terre. C'est de la pomme de terre et de la videlotte.
C'est une pomme de terre rouge. Il y a 200-300 biens. Pour voir si c'est pas trop sensible aux maladies.
L'herbe, ça vous permet de pailler aussi?
Alors, l'herbe, c'est une autre culture. L'herbe, c'est-à-dire, vous voyez, on a la pelouse, là, aujourd'hui. Et comme dans les ortillonnages, la semaine dernière, on était un peu embêtés par l'humidité, donc on ne pouvait pas biner.
Ouais.
Je suis un aventurier, donc j'aime bien tester. Vous voyez, bon, là, c'est un peu de bruit. Donc, on met ça comme ça autour. Et ça va donner aussi bien de l'humus en ce que le gazon va se décomposer. Et faire une toile, une couverture en tant que sur les mauvaises herbes, vous voyez. Donc un truc qui est juste à côté de nous, qui ne nous coûte rien du tout. On enrichit la plante et on couvre le sol contre les mauvaises herbes. Vous voyez ?
Je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez.
La fertilité,
incroyable.
La douceur, la chaleur. Donc oui. Là-dedans, on ne peut qu'avoir que du bon légume.
Alors, faut imaginer, donc, entre chaque parcelle, vous avez un peu d'eau. Vous voyez ?
Voilà, après, on a monté quelques petits canaux comme ça. Regardez. Ici, le radis blanc, vous voyez, ça c'est magnifique. Hein.
Alors, ce que j'adore, c'est que là, hop, vous sortez le radis, voilà. On se l'essuie tranquillement sur le t-shirt.
Voilà.
Oh, que c'est bon.
Frais.
Oh là.
La fraîcheur, le goût.
Les radis, c'est ici.
Donc, le radis, le navet. Après, là-bas, c'est des choux. Céleri qu'on va, on va continuer à repiquer là-bas tout au bout. Ouais. À côté, on a des betteraves rouges, épinards. Et on va continuer en choux aussi pour l'hiver. On a toute la gamme de choux là dans la parcelle du milieu.
Derrière les roseaux là, ça y est.
Voilà. Ouais. Donc on a choux blanc, choux rouge, choux frisé, choux fleur.
Ça y est, vous cultivez toute l'année. Hein.
Toute l'année. Ouais. Toute l'année, là on fait toute la gamme légumes d'été. On fait une rotation. L'année dernière, les salades étaient dans celle-ci. Cette année sont dans le sel, dans l'être là-bas.
C'est-à-dire qu'en plus vous épuisez jamais la terre.
Voilà. On fait toujours une rotation de culture. Pas de produits de traitement, pas d'insecticides, rien du tout. L'engrais est tiré. Des phases dans les étangs ou les rayons. Et on récupère tout ça, puis on étale tout ça à longueur d'hiver.
Et après, c'est le boulot des canards et des poules qui peuvent vous aider.
Voilà. Voilà, donc on a les poules comme là-bas. La semaine dernière, on ne pouvait pas biner. Il y a les poules qui sont en train de nettoyer mes poireaux.
J'aime bien les prairies.
J'aime bien les poireaux.
J'aime la poésie
et les petits oiseaux.
Au lieu de les chasser,
un fusil à la main,
je picore avec eux dans le champ du voisin. Et manger, manger, manger les radis. Avant que ce soit les radis qui nous mangent, il faut manger, manger, manger les radis. Des tas de laitue et des tonnes de pissenlit.
Ah, on a de la demande là, hein.
Alors c'est des foulques.
Ouais.
Ça permet aussi d'entretenir les rieux, les fossés. Ça permet d'enlever des algues. Certaines algues, ben vous voyez, regardez, on les voit manger tout ce qui est à ras de l'eau, sur l'eau.
Et c'est vite l'eutrophisation, quoi.
Voilà, ça nettoie le site gratuitement.
Et c'est pas rien.
Voilà.
Eh bien, bonjour. Qu'est-ce qui vous plaît les uns les autres à bosser ici, donc dans ces ortillonnages?
Ce qui me plaît, c'est travailler dehors, ouais. Déjà. La plantation, la tondeuse, on fait un peu de tout ici. C'est diversifié.
Non, mais c'est drôlement bien qu'il y ait quand même cette association-là aussi, qui accueille donc les jeunes comme vous.
Oui, oui, c'est vrai que ça aide pas mal quand même.
Ouais, c'est chouette. Hein.
Pour trouver derrière un travail aussi. Moi, j'ai envie de travailler dans tout ce qui est espace vert. Puis pourquoi pas me qualifier aussi.
Vous êtes tout jeune, vous avez quel âge?
Moi j'ai 34 ans.
Oui, c'est ça.
Ça va bientôt faire 2 ans que je suis ici. On est bien.
Donc vous tournez. Est-ce que vous mangez les légumes aussi qui sont
produits? Oui, on fait des récoltes aussi, on récolte. Hein. Et ça arrive aussi qu'on donne au Resto du Cœur, un petit peu, parce que sinon il y a trop. Puis après nous, bah, on peut se permettre de prendre des petites courgettes, des fraises, un peu de tout. Quoi.
Vous êtes né ici, vous, Francis?
Moi j'ai 55 ans, j'ai été né dans les ortillonnages avec ma mère. On pourrait exactement appeler ça être né dans un chou, parce que ma mère, quand elle me donnait le biberon, le landau, elle cueillait des radis en même temps.
D'accord, vous aviez le berceau à côté.
Le berceau était à côté dans le champ de radis.
C'est là que moi j'ai toute cette admiration pour Francis qui reste pur jus, comme c'était il y a une centaine d'années. Hein. Bon, sauf qu'il y a le moteur électrique.
Heureusement qu'il y a le moteur électrique. Ça aide. Mais en fait, vous êtes le dernier ortillon à tout faire à la barque. C'est-à-dire que vos autres collègues sont aussi sur des ortillonnages, mais ils ont une arrivée avec, pour leur petite camionnette, par du sentier, quoi, par du chemin. Pardon.
Voilà, donc on pourrait appeler ça l'ortillon de plein pied, où ils arrivent directement avec la facilité où le véhicule arrive sur leur exploitation, que moi je suis toujours aujourd'hui en train de
jouer.
Voilà. Ouais. Je suis toujours resté sur l'authenticité, bon, un peu en améliorant au niveau un peu matériel pour faciliter un peu le travail, mais ça reste quand même 85% manuel.
Et au Moyen-Âge, j'aimerais dire qu'on était autosuffisant ici à Amiens, grâce aux ortillonnages en légumes.
Oui, et plus qu'autosuffisant, puisqu'il y avait de l'exportation. Il y avait les légumes partaient vers le nord, vers le sud, dans des périphéries assez proches quand même. Mais donc c'était une... On appelait ça la Venise des
la Venise maraîchère.
Oui, voilà. C'était vraiment un grand lieu de maraîchage et c'était une des choses importantes d'Amiens.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on est suffisant? On ne peut pas alimenter Amiens et la métropole?
Ouh là là, on est loin avec 9 ortillons qu'on est actuellement. Je ne sais même pas si on produit 2% de la métropole. Qu'avant, c'était quasiment la totalité.
Vous faites combien de marchés, alors?
Je fais 3 marchés par semaine, plus deux enseignes.
Il y a du boulot, il y a de quoi faire. Et est-ce que l'on reconnaît la qualité de vos produits? Parce que quand j'ai goûté ça, c'était extraordinaire.
On reconnaît tout de suite nos légumes dans les ortillonnages, du fait qu'on a une terre très fertile. Le légume est beaucoup plus tendre. Et nous, quand on cueille le légume, on le cueille le matin très tôt, pour être livré dans la matinée. Nous, en fin de compte, aujourd'hui, on relance une politique locale. Pour nous, c'est pas du nouveau. Moi, j'ai 55 ans, j'ai toujours fait que du local pendant mes années de maraîchage. Tous les jours, on produit nos légumes le matin pour aller livrer dans le courant de matinée, du coup de 10 heures. Et le légume, quand on voit de l'huile sur une salade, quand on voit le lait qu'il y a au collet de la salade, tous les gens sautent dessus.
Oui, et donc ça a dû faire entre 3 et 4 km avant d'arriver dans le panier de la personne.
Voilà, 3-4 km. Et puis aussi, pas de chambre froide, consommer un légume vraiment frais. Pourquoi aujourd'hui, quand on dans les grandes distributions ou tout ça, les gens ils achètent un légume le lundi pour le manger le samedi? Pourquoi pas directement, comme là on est au marché sur l'eau, où on cueille nos légumes fraîchement, on les vend le samedi matin sur le marché? Il n'y a rien de mieux.
Et Nathalie, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un changement un peu de mentalité où les gens se sont quand même posés enfin de bonnes questions avec leur rapport à la nature et leur rapport à leur alimentation avec le virus?
J'ai l'impression que l'année qu'on vient de passer tous, ça fait bouger un peu les lignes quand même. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte l'année dernière en tant qu'Amiénois qu'on était quand même très très chanceux d'avoir comme ça de la production maraîchère à portée de main. Il n'y avait pas besoin de faire venir des camions de l'autre bout de la France. Il y a quand même eu un retour de aller acheter au maraîcher du coin, quoi, tout simplement. Un geste évident, mais qui l'était un peu plus dans cette fin de temps de pandémie.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Écoutez, nous, c'est la météo. Hein, cette année, on a tombé une météo qui n'a pas été propice. Hein. Les gelées qui ont été tardifs. Bon, là, ça commence à aller un peu mieux, ça commence à se réchauffer. Donc, nous, c'est que primordial, c'est que là-haut, ça aille bien. C'est le plus gros souhait que, en culture, nous essayons de souhaiter.
Eh bien, bonne suite à vous, Francis Parmentier, puis à très bientôt.
Eh bien, écoute, Denis, à bientôt aussi, et content de te revoir. Et
puis, on va goûter les radis. Hein.
On goûtera les radis, ouais. Vous goûterez les radis.
Il faut
que j'arrive à m'en mettre hein, quand même des légumes de Francis Formentier, parce que c'est quand même pas complètement à côté. Et pourtant, c'est pas loin. Hein. Ça dépend où vous êtes, évidemment. En tout cas, ce festival des ortillonnages vous attend. Allez-y, septembre, octobre, aucun problème. Et là, c'était à la fois patrimoine, écologie, culture, nourriture et insertion. Donc, quelque chose qui est fort et qui est gagnant. Merci à Gilbert Filinger, à Nathalie Vallée et donc Francis Parmentier. La semaine prochaine, eh ben, ce sera carrément autre chose. Ce sera un animal star. J'ai nommé l'âne. Oui, ce sera l'âne en vedette dans CO2, mon amour. Merci à Rémi Sissiaga, à Camille Blanès, à Xavier Pestugia qui a réalisé, qui a colorié donc cette émission. Anne Gouzon qui nourrit les sites. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche.